Bonjour à toutes et à tous. Au menu du MAG aujourd'hui, la propriété immobilière. Le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers était à Rodez le week-end dernier à l'occasion du salon immobilier à la salle des fêtes de Rodez. Vous l'entendrez. Mais d'abord, dans le MAG, un point d'actu sur la Bosch. Je serai avec Cédric Beldan, représentant du personnel de l'usine pour le syndicat Sud. C'est juste après Kim Wilde sur CFM Rodez.
CFM Rodez.
Bonjour Cédric Beldan.
Oui, bonjour.
Vous êtes représentant du personnel de l'usine Bosch pour le syndicat Sud. Et j'ai eu envie de vous appeler en raison notamment de la consultation qui a été proposée aux salariés il y a quelques jours. Qu'est-ce qui a amené cette consultation auprès des salariés il y a quelques jours?
Cette consultation elle a été proposée par les trois organisations syndicales du syndicat, des syndicats du site. Effectivement, par rapport aux dernières propositions de la direction, pour garantir aucun licenciement contraint jusqu'à la fin de l'accord 2027, la direction propose de mettre en place un fonds de réserve qui serait alimenté uniquement par du pouvoir d'achat des salariés. Donc pour nous, le syndicat Sud, c'était une position inacceptable et c'est pour cela aussi qu'on a souhaité consulter les salariés sur cette proposition de la direction.
Le maintien du site jusqu'en 2027 sans licenciement sec, on avait cru comprendre que la direction avait dit ok, d'accord, il n'était pas question de cette histoire de fonds de réserve il y a encore quelques mois.
Oui, tout à fait. Mi-mai, la direction avait acté oralement et dans un accord de calendrier notre revendication. Entre-temps, la direction allemande est revenue sur cette position, d'où un blocage en juin et juillet sur ce point-là.
Donc du coup, vous avez mis en place cette consultation, de l'ensemble des salariés de la Bosch, hein.
Oui, tout à fait. Tous les salariés de l'usine de Rodez étaient conviés à participer à cette consultation.
Alors qu'est-ce que ça a donné ?
Le résultat, il a été à la question « Êtes-vous favorable à la mise en place du fonds de réserve proposé par la direction ?» Les salariés ont répondu à 56% qu'ils étaient favorables.
Petite majorité, mais majorité.
Tout à fait. Et après, il y avait une seconde question sur les personnes qui étaient contre justement cette mise en place. 300 salariés étaient prêts à se mobiliser pour aller contraindre la direction à l'acter sans qu'il y ait de l'argent qui soit pris sur les comptes des salariés.
D'accord, ouais, parce que ce fonds de réserve, vous nous l'avez évoqué, il serait alimenté pas par l'argent de l'Alboche venu de l'Allemagne, mais il serait pris, comment vous me diriez d'ailleurs, sur les salariés, quoi, sur le dos des salariés.
Oui, tout à fait. Ce fonds de réserve, il serait mis en place si, à fin 2025, l'objectif de la direction, c'est 550. Si on était plus de 550, alors la masse salariale, justement, de ce sureffectif de ces 550 salariés au-dessus. Donc, effectivement, la direction dit, cette masse salariale, c'est les salariés du site qui seront encore dans l'usine, qui devraient payer tout ce montant. Et eux, ils ont fait une hypothèse, et cette hypothèse, ils arrivent à 7 millions d'euros. Donc, ces 7 millions d'euros, il faut que, à partir de 2022, on commence à accréditer ce fonds de réserve.
Et alors, 7 millions d'euros, ça fait combien par salarié, ça fait combien en moins par salarié, grosso modo?
On avait fait un petit calcul, on arrivait à pas loin de 1 500 euros par salarié tous les ans.
Ah oui, donc oui, c'est pas négligeable.
De moyenne. Hein.
Ça fait un 13e mois, quoi.
Tout à fait, c'était un 13e mois. Donc au départ, ils avaient proposé trois mesures, prendre sur l'intéressement, prendre aussi sur le budget qui est alloué aux avoirs sociaux du CSE, et aussi sur une modération ou un gel des salaires des salariés chaque année par rapport au NAO, aux négociations annuelles obligatoires. Suite aux dernières discussions qu'il y a eu vendredi, a priori, et face aux remarques qui ont été faites par les syndicats, a priori, ils prendraient uniquement sur un gel de salaire pour l'année 2022.
Alors, donc, on se dirige vers la création de ce fonds de réserve, puisque les salariés ont voté en majorité, petite majorité, mais ont voté en majorité pour. En revanche, votre syndicat Sud était opposé à la création de ce fonds de réserve.
Oui, tout à fait. On était complètement opposé. Maintenant, on va respecter le choix des salariés. Et en tout cas, maintenant, dans les semaines qui arrivent, on va se battre pour faire diminuer ce fonds de réserve, parce qu'on a des contre-propositions aussi qui ont été faites à la direction, mais qui pour l'instant ne veut pas les prendre en compte. Mais en tout cas, le but, il va être de diminuer l'impact pour les salariés.
Alors vous allez vous battre, vous n'allez pas être tout seul pour vous battre, hein, puisque ceux qui ne veulent pas de ce fonds de réserve sont en majorité d'accord pour suivre les actions proposées par votre syndicat et les autres syndicats de l'usine Bosch.
Oui, tout à fait. Maintenant, les discussions vont continuer. Il y a aussi des discussions qui sont très importantes sur le projet industriel. Le 7 octobre, le cabinet d'expertise doit nous rendre son rapport justement sur ce projet industriel proposé par la direction. Et aussi, comme ça, on va pouvoir se faire un peu, on fera un état des lieux pour voir si vraiment ce que propose la direction est viable pour jusqu'à 2027.
D'accord, donc ça c'est début octobre, cette grosse échéance?
Oui, c'est une grosse échéance parce que ça va vous permettre aussi de nous voir est-ce que le projet qu'envisage la direction, qui est sur le projet Fresh2, donc dans l'hydrogène, ils estiment à 250 salariés fin 2027 sur ce produit-là. Maintenant, le cabinet va pouvoir aussi dire est-ce que c'est réel ou pas, et où est-ce que ce projet il arriverait à maturité peut-être après 2027.
Vous y croyez? Vous êtes optimiste ou pas?
Vous savez, c'est compliqué au jour d'aujourd'hui. Hein. On est déjà sur un accord où l'entreprise, depuis 2018, devait nous chercher 300 emplois, et aujourd'hui, on n'est qu'à 40. Derrière, on a une annonce d'une perte de 750 salariés. Donc, être optimiste, c'est compliqué.
Vous avez parlé de propositions du syndicat Sud. Ça serait quoi, vous, vos propositions?
Ouais, il y a des mesures au jour d'aujourd'hui sur des alimentations de compteurs que l'on a en place sur le site. Il y a des possibilités de bloquer à nouveau l'alimentation des compteurs épargne-temps. Ça, pour nous, on l'avait déjà estimé dans l'accord de 2018. Il y avait un gain pour la direction. Si on est prêt à, pourquoi pas, à le remettre en place dès 2022, mais à condition que, bien sûr, la direction, on va dire, accepte que, justement, elle reconnaisse qu'il y a un gain pour eux. Et au jour d'aujourd'hui, elle ne le reconnaît pas. Et ce gain, je pense qu'il est important, et ça pourrait faire baisser grandement les 7 millions d'euros demandés aux salariés.
Alors, on a le sentiment quand même, le grand patron de Bosch Europe là, qui était venu à Rodez au printemps, on était ressorti avec de l'espoir, on a le sentiment que le maintien de l'emploi, le maintien du site, c'est vraiment une course d'obstacles, mais de hauts obstacles pour les salariés, les syndicats en particulier. Je sais pas ce que vous en pensez.
De toute manière, notre site, on est dédié uniquement au diesel. Et par rapport à toutes les annonces qui ont été faites par le gouvernement, par l'Europe, par rapport à ces véhicules, effectivement, nous, à Rodez, on est en train de trinquer. Et maintenant, il faut qu'on sorte du diesel. Ça, c'est une obligation, de toute manière... Pour que le site continue à vivre, on n'aura pas d'autre choix. Par contre, les projets qui sont amenés et qui sont trouvés par le site de Rodez, c'est pas l'Allemagne qui nous amène le boulot, c'est nous qui nous le cherchons. Donc voilà, donc c'est pas évident. Il y a une équipe qui travaille dessus, d'une vingtaine de personnes. Maintenant, on va voir au fur et à mesure jusqu'où va aller ce projet, en espérant bien sûr qu'on arrive à cet objectif, que le site... arrive au moins à 500 emplois avec ce nouveau projet hydrogène.
Et les politiques, je parle au niveau national, gouvernement, la ministre Agnès Pannier-Runacher, là, qui devait repasser en Aveyron, Bruno Le Maire, qui parle de la Bosch de temps en temps dans les médias, on n'a plus trop de nouvelles, ils suivent toujours, ils attendent eux aussi la direction, enfin les décisions de Bosch.
On a l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, l'État est en train de se détacher un peu de notre dossier. Nous, on les rappelle à l'ordre. En tout cas, le syndicat Sud, on va demander à rencontrer Monsieur Castex, qui normalement devrait revenir dans l'Aveyron début octobre. Et ça sera l'occasion pour nous aussi de faire un point et de mettre les responsabilités aussi devant notre situation.
Merci beaucoup, Cédric Beldan, d'avoir fait le point avec nous sur la situation de l'usine Bosch et de ses salariés en particulier. Merci beaucoup, bon courage à vous et à tous les salariés de la Bosch.
Merci beaucoup.
À suivre dans le MAG, le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers de l'Aveyron. Un président qui était de passage à Rodez il y a quelques jours. C'est après The Raconteurs sur CFM Rodez.
I'm not afraid to die.
CFM Rodez, le mag.
Bonjour Monsieur Demerson.
Bonjour David, merci de m'inviter.
Bah avec plaisir, vous êtes président national de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Qu'est-ce qui nous a valu le plaisir de vous avoir en Aveyron ce matin ?
Et je mets un point d'honneur à visiter toujours les chambres partout en France, puisque les territoires sont divers. Et pour vous dire, par exemple, j'étais à Strasbourg la semaine dernière, j'étais aussi bien à Dax qu'aujourd'hui à Rodez. Et c'est vrai que j'ai plaisir à rencontrer les présidents de chambres qui sont là toute l'année à œuvrer bénévolement au service de la propriété et au service des propriétaires immobiliers.
Pour les propriétaires comme pour les professionnels de l'immobilier, 2021, c'est une bonne année.
Alors, il faut être précis, David. Oui. Quand on est propriétaire, si on est propriétaire à Rodez, on peut être content puisque j'ai écouté ce matin le maire de Rodez et c'est vrai que j'entends pas le même discours partout en France, j'allais dire malheureusement, parce que ce que j'ai retenu du discours du maire de Rodez ce matin, c'était surtout qu'il était sage avec les impôts fonciers, oui. Il était sage avec les taxes foncières, donc avec tout ce qui touche la fiscalité. Et je pense que ce principe de sagesse, il s'en rend compte aujourd'hui, eh ben, ça fait de l'attractivité, ça mène des investisseurs et les gens investissent dans le pays. Je m'en réjouis. Il nous a d'ailleurs annoncé, on a vérifié les chiffres, que c'est 15% de gens qui sont hors territoire, hors de votre bassin, qui viennent à Rodez justement, qui sont intéressés par vos paysages bien sûr, par vos murs et vos vieilles pierres bien sûr, mais aussi par la fiscalité qui est douce.
Alors vous êtes président national, donc vous avez des interlocuteurs nationaux, j'imagine. Exactement. Du gouvernement. Justement, vos revendications, c'est principal quand vous rencontrez les décideurs. C'est alors, sur quel sujet ?
L'actualité du moment, pour être précis, c'est les DPE. Comme vous le vous savez, il y a un nouveau DPE.
Diagnostic énergétique.
Performance énergétique. Il y a eu un bouleversement. Tout le monde est conscient qu'il faut faire des progrès dans l'énergie. Tout le monde est conscient qu'il faut isoler les biens. Mais le problème après aussi, c'est qu'il y a un calendrier. Donc nous, en juin dernier, moi j'avais alerté la ministre, Madame Wargon, sur le fait que on était inquiets justement, parce qu'on voyait le calendrier qui nous était proposé et on savait que ça allait être compliqué pour pouvoir régler ça, ce problème, dans un délai aussi court. Et quand on a un calendrier irréaliste, eh ben, on a forcément une inflation, on a des inquiétudes qui se créent. Et nous, on ne veut pas aller dans ce sens. Tout ce qu'on veut, c'est que les Français s'approprient la rénovation énergétique et qu'ils soient contents d'y aller et qu'ils fassent des efforts et que les banquiers fassent des efforts sur les crédits, que MaPrimeRénov', qui est un bon dispositif en soi mais qui est un peu en saupoudrage aussi, soit effectif partout. Alors d'un côté, en termes de chiffres, on peut dire que c'est bien parce qu'il y a un très grand nombre de dossiers, mais après aussi ce qu'on peut dire, c'est que c'est un saupoudrage. Et puis après, ce qui nous inquiète, nous là je parle pour les propriétaires bailleurs maintenant, c'est que c'est non seulement du saupoudrage, Mais c'est aussi que, comme vous le savez, dans le calendrier, il va y avoir des interdictions de louer. Et ce qu'on craignait arrive malheureusement. Et on s'en rend compte puisque là, on a 2 mois de recul. Donc là, maintenant, l'administration centrale est en train de passer tout ça à la moulinette. Mais ce qu'on voit, c'est que tout ce qui était, par exemple, en classement D passant E, tout ce qui était en E passant F, et ce qui était en F passant G. Donc ce qui veut dire qu'avec le calendrier qui nous est proposé, il faudrait qu'il y ait 50% du parc qui soit raisonné, qui soit rénové en 7 ans. Et ça, c'est impossible.
Ouais, impossible.
Impossible de
rénover
50%.
Même si on y met des efforts du gouvernement,
non,
des aides.
Non, mais même qu'il y ait de l'argent magique, ouais. L'immobilier, c'est le temps long, il faut les artisans. Vous le savez déjà, avant même ce problème, les artisans, on l'a encore vu ce matin, puisqu'ils ont des carnets de commandes qui sont remplis, ils ont des problèmes d'approvisionnement, ils ont des problèmes de prix des matériaux, et tout ça, c'est de l'inflation. Et comme je vous dis, quand il y a de l'inquiétude, il y a un risque d'affolement, et nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que les choses se fassent, qu'elles se fassent tranquillement et dans la sérénité, et qu'il y ait le moins d'inflation possible. Et puis que tout le monde puisse faire face à ses responsabilités.
Alors un petit mot sur votre association, l'UNPI, passionne les propriétaires immobiliers. Vous avez donc des membres qui sont propriétaires immobiliers. Il faut aussi rappeler l'intérêt pour eux d'être membre de l'association. Vous êtes vraiment un soutien, à la fois un conseil peut-être psychologique, mais aussi juridique à différents niveaux pour les propriétaires qui se retrouvent
exactement,
pas dans des situations.
On est là depuis plus d'un siècle au service de la propriété privée. On est là au service des propriétaires. Alors c'est vrai qu'on peut les conseiller sur tout ce qui est fiscalité, on peut les conseiller sur tout le travail qu'ils font, on peut leur expliquer, faire des formations, comment on établit un bail. Si c'est trop compliqué, on peut des fois leur conseiller d'aller voir des professionnels. On est là, on allait dire, pour mettre de l'huile dans les rouages et puis pour répondre aux nombreuses questions qui se posent tous les jours, puisque la loi, elle évolue tous les jours. Et donc, nous, on met un point d'honneur à faire à ce que nos adhérents suivent au mieux les textes. Et c'est pour ça qu'on se bat aussi pour eux, pour que tout puisse être applicable. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est du principe de réalité et de la sagesse.
Tiens. Mais alors, on va avoir des élections présidentielles là, dans quelques mois. Quand on est président,
ça vous a pas échappé.
Ça m'a pas échappé, mais à vous non plus, je suis sûr.
Non, pas du tout.
Quand on est président d'une grande association nationale, bah, c'est le moment de pousser certains dossiers, certains sujets, hein, puisque les propriétaires immobiliers sont nombreux en France, de plus en plus nombreux. Ils votent aussi. Vous allez en profiter, c'est pas le mot, mais je pense vous adresser aux candidats sur un certain nombre de questions ou pas particulièrement.
Alors, bien sûr que nous, on les sensibilise et normalement, on va tous les voir maintenant que la campagne et puis que les candidats vont se déclarer. On les sensibilise, j'allais dire, sur plusieurs points. Déjà sur la fiscalité qui est lourde.
Le foncier.
Donc le foncier, mais pas seulement. Si on prend par exemple pour les propriétaires bailleurs, eh ben, il y a tout un empilement. Il y a peu de gens qui le savent, mais par exemple quand vous recevez 100 euros de loyer, vous avez déjà 17,2% de CSG.
Ouais.
Après vous avez les impôts fonciers.
Ouais.
Voilà, donc là, si vous faites les impôts fonciers plus la CSG, déjà, on est à plus d'un tiers de fiscalité. Et puis après, vous avez la fiscalité au propriétaire qui incombe au propriétaire lui-même de par ses revenus. Donc tout cet empilement, c'est comme dans, si je vous prenais aussi sur un autre sujet, la réglementation, elle évolue tout le temps. Et tout ça, et ben, ça coûte cher. Et ça prouve qu'il faut anticiper et qu'il faut être toujours bien conseillé.
Puisqu'on parle de ça, l'impôt sur le patrimoine, là, pour l'ancien impôt sur les grandes fortunes,
oui.
Voilà. Bon, ça concerne très peu de propriétaires immobiliers, hein. Enfin, ça en concerne
ça
quand même quelques-uns.
Ouais.
Oui, à Paris, il suffit d'un appart, on est bon.
Bah, si vous avez à Paris, si vous avez un appartement, F3, vous pouvez dire que vous êtes assujetti à l'IFI, oui.
Et alors là-dessus, sur ce dossier, vous avez fait une croix dessus pour une amélioration de la situation pour les propriétaires ou bien vous pensez que ça peut bouger, notamment à l'occasion d'élections?
Non, c'est pas un de nos sujets prioritaires. Et puis, je pense pas qu'un sujet comme aussi grave que ça et polémique, il se règle au moment de l'élection. Alors, tout le monde sait qu'il rapporte pas.
Très peu. C'est symbolique
par rapport
enfin,
à ce qui se passe. Mais on sait aussi que ça fait, il y a plein de propriétaires et de gens qui sont bien conseillés, qui font des arbitrages qui rapportent pas forcément d'argent sonnant et trébuchant à l'État. Mais d'un autre côté, on comprend que c'est populaire, donc on comprend que les candidats, malheureusement, ils prennent compte de l'électorat. Et donc, vous l'avez dit vous-même, ça touche peu de gens. Voilà, il y a tout un process, j'allais dire, d'explication. De gagnant-gagnant à faire évoluer.
Alors sinon, je le disais pendant notre entretien, beaucoup de Français ont le rêve de la propriété. Hein,
c'est vrai.
Est-ce que ça vaut encore le coup, là en 2021, de devenir propriétaire?
Moi, je pense que ça vaut le coup, mais comme tout projet, ça doit être structuré. Et un jeune, plus il va commencer jeune, plus il va établir une stratégie et il va falloir qu'il s'entoure le plus tôt possible. Donc moi, je pense toujours, je conseille, mais même un très jeune, il peut très bien aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, il peut aller voir son notaire, on oublie trop souvent d'aller voir son notaire, il peut discuter avec des amis autour de lui, il peut aller dans les chambres UNPI partout en France qui se font un plaisir de les conseiller pour essayer d'avoir un petit peu un projet à court terme, à moyen terme et à long terme. Parce que si on achète quelque chose pour dire qu'après dans 2 ans, on part aux États-Unis, ça sera pas forcément une bonne idée. Mais peut-être que si on envisage de louer le bien et s'il est bien placé dans une grande ville, etc. Vous voyez, donc après, c'est vraiment en fonction de chaque projet qu'il y a quelque chose à faire. Donc je dis toujours du conseil et du conseil.
Et notamment auprès de l'UNP, chacun des départements, l'UNP 12. Pour le département de l'Aveyron, l'adresse c'est rue Béteil, dans le centre-ville de Rodez. Pour les locaux de l'UNP, on trouve toutes les coordonnées très très facilement. Un dernier mot, Christophe de Merson, c'était votre première visite en Aveyron?
C'était ma première visite en Aveyron,
alors,
sans rien vous cacher.
Alors,
j'ai trouvé que le pays était très beau, j'ai trouvé que la ville était très propre, qu'elle était bien entretenue, j'ai été frappé. Et puis une chose, je sais que c'est peut-être pas la mode, mais j'ai apprécié de pouvoir me garer facilement, rapidement à côté du musée Soulages. Je vais me faire un plaisir d'aller le regarder. Alors j'ai été surpris, David, parce que j'ai appris qu'à l'époque, quand il y avait eu un sondage, il y avait plus de 80% des habitants de Rodez qui étaient contre l'installation de ce musée.
Ah, au tout début.
Ouais, donc ça m'a surpris et j'ai félicité le maire d'avoir eu le courage d'encourager cette réalisation et d'en venir à bout. Mais honnêtement, je pense que c'est vraiment un atout pour votre ville et pour votre région. Et puis, je vous dis, les pierres, les paysages autour, magnifiques. J'ai été gâté.
Bon, bah, vous allez acheter.
Pourquoi pas, je me suis renseigné sur les prix.
Ah d'accord,
et
quand
je
même.
Je pense que c'est le moment d'acheter un Aveyron parce que j'ai parlé avec le président des notaires de l'Aveyron.
Qui sont présents là sur présents le salon d'immobilier, bien sûr.
Vous pouvez aller voir, les voir, bien sûr, ils se feront un plaisir de vous renseigner. Et c'est vrai que les prix qu'ils m'annonçaient pour des biens de qualité, on peut dire, sont pas chers par rapport à ce qu'on voit partout en France. Et je pense que c'est une solution de repli. En plus, il y a des solutions de crédit tout de suite, puisque le crédit n'est pas cher. Donc honnêtement, je pense qu'il y a un bon levier. Je pense que il y a des opportunités d'achat. Si vous trouvez des produits intéressants, il y a une opportunité à Rodez.
Bon, Christophe, le répétez pas trop, parce que sinon, les opportunités...
Mais on est entre nous, David.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup Christophe Demerson, président de l'UNPI, Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, président national de cette belle association qui est venue en Aveyron aujourd'hui à l'occasion de l'Assemblée Générale organisée au Salon de l'Immobilier, salle des fêtes de Rodez. Merci Monsieur Demerson.
Merci David.
Voilà, c'est la fin du MAC pour aujourd'hui. Excellente journée à toutes et à tous sur CFM Rodez. Rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle édition.